Interview.
1 interview du jour.
Eh bien bonjour, Christian Le Corvic à l'appareil. À l'appareil et donc au micro en l'occurrence. Je suis en compagnie de Laurence Croton qui a donné hier dans le cadre des Rencontres de Luc une conférence ayant pour titre Frida Kahlo, Diego Rivera, excusez-moi, Art, Passion et Révolution. Pour introduire cette conférence, je suis en sa compagnie et pour recueillir un certain nombre de réflexions très larges, parce que je trouve qu'il est intéressant aussi, la conférence, vous aurez l'occasion de l'entendre, mais il est toujours intéressant de tourner autour du sujet qui est le sujet de sa conférence, mais aussi autour du sujet de celui ou de celle qui profère la parole, et celle qu'elle a donnée hier, en l'occurrence avec Laurence. Alors je vais commencer justement à la périphérie des choses, puisqu'en fin de compte, les Rencontres de Luc sont ce que je parlerais personnellement de l'éducation populaire. Et je voudrais savoir ce que cela sous-entend pour toi et quelle en est l'image, l'idée que tu peux en avoir.
Alors, l'éducation populaire, pour ce que j'en retiens, c'est l'idée de transmettre les connaissances à tous les publics. Alors moi, il faut savoir que mon métier principal, c'est professeur de lettres, mais donc bien sûr, je suis sensibilisée à l'éducation, à la pédagogie, mais je trouve très important de transmettre les connaissances, alors dans les associations culturelles, dans le réseau des universités populaires, dans toutes les structures qui permettent justement d'apporter les connaissances. C'est pas méprisant évidemment populaire, même si les gens ne savent plus trop ce qu'il y a derrière ce mot, je trouve. Et en tout cas, il faut transmettre à tous les publics, parce que même si je suis bien placée pour savoir que la transmission se fait dans les lycées, en tout cas là où j'enseigne, il y a encore beaucoup de zones d'ombre et puis beaucoup de soif quand même de connaissances qu'on rencontre par exemple chez justement les seniors, mais aussi les personnes qui ne sont pas en contact avec l'art sous toutes ses formes en fait. Donc c'est un noble projet né dans les années 60 hein, et qu'il faut faire vivre. Alors heureusement il y a des associations qui continuent de le faire hein, les universités populaires notamment, mais moi j'interviens dans différentes associations et c'est ce qui est demandé énormément dans la connaissance par exemple découvrir un tableau, comment lire un tableau ou même quel livre lire quand on a qui résonne avec sa réalité.
Il semblerait qu'en règle générale, en tous les cas c'est ce qui se passe dans le cadre des Rencontres de Luc, et à mon plus grand regret, c'est que la population rencontrée puisque moi personnellement j'étais sur la région parisienne et j'ai eu l'occasion de suivre des cours au sein de l'Université populaire des Hauts-de-Seine, le public est majoritairement plutôt des gens au-delà, je vais être gentil, au-delà de la cinquantaine. Si tant est que tu puisses évaluer le pourquoi, les plus jeunes en sont absents, puisqu'on peut considérer que l'éducation populaire est ouverte au plus large public. Et est-ce que tu peux, de ton point de vue, est-ce que tu as un point de vue sur la question, justement ?
Alors, c'est vrai, mais c'est vrai pas seulement pour les réseaux des universités populaires, parce que je discute souvent aussi avec des musiciens qui disent que lorsqu'on va dans les salles de concert à Lyon ou ailleurs, on se retrouve avec une assemblée de têtes grises, comme on dit, et très peu de jeunes en fait, et c'est pareil dans les théâtres, c'est pareil comme si effectivement il y avait, alors peut-être il y a un détail très concret, c'est que effectivement les gens qui sont à la retraite, évidemment, ont un pouvoir d'achat plus important quand même, pour certains en tout cas, et un peu plus de temps. évidemment. Et les jeunes considèrent, je pense que les jeunes considèrent que comme ils ne sont pas très éloignés ou encore dans le système scolaire, ils ont suffisamment, ils ne voient pas l'intérêt d'aller chercher plus d'informations encore. C'est vrai qu'il y a tout un travail à faire. Moi, pour intervenir dans les universités populaires, les modules qui sont fréquentés quand même par les jeunes, ce sont les modules de langue, parce que il y a une utilité entre guillemets qu'ils voient immédiate. Ils voient qu'ils ont un niveau très moyen en anglais, alors ils cherchent des moyens d'avoir des cours supplémentaires. En revanche, effectivement, les cours sur la géopolitique, les cours sur l'histoire de l'art sont fréquentés massivement, effectivement, par d'autres publics. C'est aussi un problème, je pense, de communication, hein. C'est-à-dire que les universités populaires n'ont pas les moyens aussi de faire beaucoup de publicité, en fait. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment une démarche qui serait à faire pour accentuer l'information auprès des jeunes qui connaissent en général pas très bien le milieu associatif et encore moins l'associatif culturel. Voilà.
Le gouvernement lance à titre expérimental un pass culture. Voilà, je souhaiterais avoir ton sentiment sur ce pass culture qui avait déjà été lancé en Italie. Je ne sais pas d'ailleurs le succès qu'il a recueilli, mais voir un petit peu de ton point de vue, si, je sais pas, si tu as eu l'occasion d'échanger avec tes élèves ou avec d'autres personnes sur ce sujet-là, qu'est-ce que tu penses de l'efficacité, si tant est qu'il y a une nécessaire efficacité aux choses, mais en tous les cas, commences-tu?
Alors, il y a eu une très bonne intervention cette semaine de Clémentine Autain, la députée donc de la France insoumise à l'Assemblée nationale à ce sujet, devant un parterre, je dois dire, de députés qui étaient très limités, hein. Elle était presque seule, mais elle a fait une très très bonne intervention à ce sujet, donc à ce sujet, au sujet de la culture, du traitement de la culture par le gouvernement. Et pour répondre à ta question sur le pass culture, moi, au tout départ, je m'étais dit, oui, très bien, il faut effectivement donner des moyens matériels. Donc, ce pass culture répond peut-être effectivement à un petit besoin. Ça va être un coup de pouce aux familles. Mais Clémentine Autain disait, à juste titre, c'est encore une fois donc un palliatif, donc juste un chéquier, de l'argent. Mais la vérité derrière, c'est que si on ne finance pas les résidences d'écrivains, les résidences d'artistes, si on enlève des sous concrètement aux artistes qui créent, ça ne sert à pas grand-chose que de donner donc ce chéquier culture aux jeunes. D'accord? Donc il faut voir des deux côtés, c'est-à-dire l'offre culturelle, si on veut que les jeunes viennent dans les théâtres, que les artistes puissent créer, il faut des moyens derrière. Donc on donne d'un côté, mais on retranche de l'autre. Et ça, effectivement, il y a un gros problème. Il faut un investissement majeur. Et sans vouloir parler tout de suite des gilets jaunes, mais quand même, il y a la culture, et on le voit justement dans la conférence que j'ai essayé de mener hier, la culture est un facteur d'émancipation important. Et pour mener à bien une révolution, il faut investir forcément dans l'art. Et il semble que, effectivement, ça ne soit pas l'objectif principal, ou en tout cas que ce chèque culture masque un retrait d'argent de l'autre côté.
Puisqu'on fait le lien avec l'éducation et l'émancipation, penses-tu, dans ta pratique professionnelle, que la culture au sens large, la pratique, l'abord qu'on peut avoir sur le plan donc pratique, mais aussi théorique, soit suffisamment développée? Il me semble quand même qu'il y a un certain nombre de choses qui manquent, en tous les cas. Il y a la place faite à l'art, et on reposera peut-être la question de l'art dans sa définition globale, manque terriblement comme support à toute pratique, d'ailleurs. Je voudrais avoir ton sentiment sur ce sujet.
Oui, il y a eu un choix, je crois, depuis les années, on va dire 80, de privilégier les enseignements plutôt scientifiques, hein. Les humanités, comme on dit, déjà sont peu à peu sacrifiés, et les enseignements artistiques sont pas le parent pauvre, hein, dans l'enseignement français, hein, c'est sûr, puisque au collège il y a 1 heure de musique. et 1 heure d'art plastique. Alors, il y a une diversité quand même qui est proposée. Les profs d'art plastique vont proposer des réflexions. En revanche, ils n'ont pas le temps de faire de l'histoire de l'art, par exemple. Donc, on se retrouve avec, moi je vois bien en lycée, avec des élèves qui connaissent un peu les techniques, mais qui n'ont jamais pratiquement vu un tableau. Alors, on le fait en lettres, en fait, dans les cours de français. On le fait un petit peu ailleurs, mais il n'y a pas d'histoire de l'art, il n'y a pas de connaissances véritables. Et c'est pareil en musique. Donc, ils ont une pratique limitée pour certains, parce qu'une heure par semaine sans apprendre véritablement ni les techniques vocales, ni le solfège, ni un instrument, ça reste de l'initiation. Alors, à beaucoup de styles de musique, c'est déjà beaucoup, mais avec 1 heure, c'est très peu pour. Donc oui, il y a un choix qui a été fait depuis longtemps de sacrifier, c'est vrai, l'art enfin, en mettant en place des cours maintenant de technologie, d'informatique. Alors bien sûr que ça peut répondre à un certain besoin dans la société, mais l'ouverture, évidemment, l'émancipation, elle passe par les arts et elle passe par les humanités, hein, il n'y a pas de secret.
On va tourner un petit peu autour du sujet de l'art et me vient une réflexion qui est, on vit dans un monde numérique, nous sommes tous confrontés à ce monde à des degrés différents et on y pénètre avec discrétion et des fois donc de plein pied. Est-ce que tu penses que justement c'est un vecteur qui peut être important dans la transmission, dans le développement d'une capacité. On voit bien que c'est des systèmes qui sont autonomes, sur lesquels on peut pratiquer et rendre public un certain nombre de choses que l'on fait seul chez soi, en l'occurrence tout ce qui tourne autour de la musique en règle générale. Donc est-ce qu'on peut imaginer, et voir peut-être une forme de prospective que tu pourrais avoir, de ce que pourrait à quoi pourrait servir, on sait à quoi sert déjà le numérique, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse trouver des formes qui permettent de rendre beaucoup plus populaire la peinture, la musique, sous toutes ses formes.
Vaste question, là, je ne suis pas spécialiste. Hein. Ce que je sais dans le domaine musical, c'est que pour la musique, le rock, le jazz, etc., il y a énormément, là, c'est une grande avancée, il y a énormément de musiciens, de chanteurs, de groupes qui se font connaître via les réseaux et qui concurrencent, en fait, donc, on va dire, l'industrie et qui se font connaître comme ça, il n'y aurait pas eu, effectivement, cet écho sans Internet. Donc, ils trouvent un public, ils trouvent de nouvelles formes. Pour ce qui est des arts, c'est extrêmement difficile. Je ne crois pas que, en tout cas pour ce qui concerne la peinture, bien sûr, beaucoup d'artistes maintenant ont des sites web, mais comment arriver à trouver dans la jungle d'Internet leur œuvre, c'est extrêmement difficile. Mais y a évidemment, il y a tout sur Internet, hein, mais je vois bien que les jeunes, en fait, ils ne savent pas chercher. Parce que ça s'apprend aussi de pouvoir chercher donc des informations. Donc ils ont l'impression d'avoir le monde sous les doigts, si j'ose dire, mais ils n'ont pas de moyens d'apprendre à chercher. Et en plus, comme on le sait, hein, le grand débat, c'est de voir un peu ce qui est vrai et faux, d'où vient l'information. Ils ont pas, enfin, on essaye évidemment en tant qu'enseignant de leur apprendre à démêler le vrai du faux, mais ça prend du temps et il faut parfois évidemment démonter tout ce qu'ils ont déjà dans la tête d'a priori ou de stéréotypes ou d'idées fausses sur certains sujets, hein. Donc on est proche des théories du complot, ça va très vite et du monde de la rumeur et puis effectivement de l'information rapide qui n'est pas digérée, qui n'est pas maîtrisé parce qu'on n'y passe pas beaucoup de temps et qu'on est dans l'urgence permanente en fait.
On parle des jeunes beaucoup et je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est les forces vives et qui sont confrontées aussi à des problèmes extérieurs qui sont, je pense, plus prégnants aussi sur ce qu'ils sont aujourd'hui, la manière dont ils vivent le monde. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un fossé entre ce qu'on pourrait appeler la grande culture et puis la culture, je dirais, populaire, qui a toujours existé, bien entendu? Mais est-ce que là, il n'y a pas encore un fossé encore plus important qui se creuse? Et est-ce qu'il n'est pas de plus en plus difficile justement de créer des passerelles, de faire passer je dirais, d'un groupe de rock à je dirais, à la musique classique sous quelque forme que ce soit? Est-ce qu'il n'y a pas, enfin, si tant est que tu as une expérience quand même sur un certain nombre d'années de prof, d'avoir ce sentiment de se dire, tiens, maintenant c'est peut-être via le numérique à nouveau, quelque chose de plus difficile de faire pénétrer les gens dans un univers, les plus jeunes, donc tes élèves, dans un univers qui est le tien d'une certaine manière. Je dirais pas que tu ne t'intéresses pas à la petite culture, mais que la grande culture, celle que tu diffuses. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Je pense que pour tous les publics, que ce soit pour les jeunes et les moins jeunes, hein, de toute façon, il faut prendre par la main, d'où l'intérêt évidemment des structures d'éducation populaire où toute structure, ça demande un effort, enfin ça demande une volonté, ça demande une motivation, ça demande un effort, et du coup ça demande une politique d'accompagnement. Alors je parlais hier avec une personne qui est venue à la conférence de la pratique de la comédie de Valence, parce que je suis de Valence, et donc à la Comédie, ils ont fait toute une. Enfin, Richard Brunel, l'actuel directeur de la Comédie, a fait quand même. A développé justement une politique effectivement culturelle intense pour faire venir justement les jeunes, mais d'autres publics aussi au théâtre. Et ça fonctionne bien, puisque là, on peut dire, il y a quasiment presque tous les lycéens qui sont inscrits, et même les collégiens, pour venir donc à des tarifs très intéressants à la Comédie de Valence. Et puis donc d'autres publics, puisqu'ils ont compris qu'il fallait aussi se déplacer, c'est-à-dire faire venir les gens dans les villes, pour voir du théâtre, du musée. C'est parfois très difficile parce qu'il y a une résistance, parce qu'il y a une peur, parce qu'on ne connaît pas ces lieux, parce qu'on a l'impression justement qu'on n'y est pas à sa place. Donc il faut faire venir le théâtre, par exemple, ailleurs, c'est-à-dire le transporter à la campagne, le transporter dans des petites associations ou des petites MJC, faire venir les troupes autrement, ou bien pour les musées, justement, se déplacer. Voilà, c'est moins évident évidemment pour déplacer des œuvres artistiques. Mais ouais, il faut, je pense, effectivement développer ce qu'on appelle maintenant les hors les murs, c'est-à-dire je pense que les gens ont effectivement enfin une peur d'aller dans les lieux de l'établissement culturel justement, et qu'il faut développer les pratiques de justement hors les murs, et faire venir les publics comme ils sont, c'est-à-dire donc ne pas leur dire il faut venir en costume, il faut enfin, c'est pour tout le monde. Il y a quand même beaucoup de démarches en ce sens, hein, dans tout ce que ce soit les musées, les théâtres, la musique, parce qu'à l'Auditorium de Lyon aussi, hein, ils ont un public très diversifié maintenant. Ils vont faire cette année, ils ont fait une soirée Star Wars avec donc l'orchestre symphonique qui a joué donc les musiques de Star Wars, et le public est venu donc jeune, moins jeune, etc. Ouais, et ils ont peu à peu, ils font introduire la culture effectivement populaire dans les lieux où on peut écouter aussi Beethoven et Wagner en fait. Ouais, c'est cet éclectisme que les gens cherchent, je crois, quels que soient les gens, les jeunes, les moins jeunes, c'est ça qu'il faut ouvrir. Je pense, c'est l'éclectisme et ne pas effectivement faire de hiérarchie. Alors on peut peut-être le regretter en se disant on va niveler vers le bas, mais non, je pense que c'est vraiment une force que de voir que dans effectivement 2019, on est capable, comme nous tous, d'écouter du jazz, d'écouter de la musique classique, et puis tantôt d'écouter un air populaire, une chanson ou du rap, et puis le lendemain d'aller voir une exposition. Et puis y a pas, c'est pas qu'il n'y a pas de hiérarchie, mais de passer par toutes les formes pour pouvoir se faire justement son propre esprit critique.
Par rapport à ça, est-ce que c'est un peu la poule et l'œuf? Est-ce que c'est le spectacle qui va donner le désir de pratiquer? Ou est-ce que c'est la pratique, et on revient dans le cadre du milieu scolaire, ou milieu scolaire ou bien sûr parascolaire, est-ce que c'est la pratique par exemple du théâtre, la pratique de la musique, qui va faire qu'on aura peut-être une ouverture d'esprit plus importante en se disant, tiens, la pratique que j'ai de dire du texte dans le cadre d'une association, j'ai envie d'aller voir des professionnels, entre guillemets, ou des gens ayant une expérience théâtrale plus importante que la mienne, aller découvrir un petit peu le texte que j'ai peut-être appris moi-même d'ailleurs, aller le découvrir sur une scène et découvrir bien sûr qu'il y a une ampleur différente parce que c'est mis sur une scène. Alors voilà, un petit peu à travers l'expérience qui la tienne à nouveau, je reviens sur cette expérience, mais quelle perception tu en as? Et tu parlais de l'expérience de la Comédie de Valence. Est-ce que tu en as fait, toi, l'expérience avec des classes? Et quel est le retour justement des élèves à la suite du, par exemple, d'une soirée passée à la comédie, que ce soit au niveau théâtral ou au niveau musical?
Alors déjà, la pratique qu'on a par exemple donc à la Comédie de Valence, les élèves sont préparés, alors à la fois par l'enseignant, mais aussi donc quelqu'un de la Comédie de Valence qui vient leur expliquer un petit peu ce qu'ils vont voir ou tout simplement avant la première fois où ils vont venir au théâtre, qu'est-ce que c'est qu'un théâtre, comment ça fonctionne les subventions d'un théâtre, qui sont les gens qui travaillent dans un théâtre, parce que tout ça, ils l'ignorent la plupart du temps. Et quand on y va, surtout, c'est ça que moi je trouve magique dans notre métier, c'est quand on accompagne les jeunes pour la première fois au théâtre, parce que là j'ai eu le cas, hein, cette année j'ai eu des élèves qui sont en première, ils ont 17 ans et ils n'étaient jamais allés au théâtre. Et ils ont cet émerveillement déjà de découvrir bien sûr une salle de théâtre et de tout simplement me dire la première chose qu'ils disent en sortant, c'est impressionnant. Des gens qui jouent devant nous, c'est-à-dire des comédiens, des gens réels, parce qu'on s'aperçoit évidemment que les jeunes voient beaucoup de choses par les écrans et sont habitués plutôt au cinéma, aux séries, etc. Et donc tout un travail qui a déjà été fait, alors que là, ils mesurent qu'évidemment, enfin, devant eux, il y a des vrais êtres qui de chair, en chair et en os qui sont là pour donner donc une représentation. Donc c'est ça qui les frappe, c'est le... Et puis, que ce soit pour le cinéma, quand on les emmène au cinéma ou au théâtre, ce qui est quand même important, évidemment, c'est le partage. C'est-à-dire, on a vécu, enfin, c'est ça qui est beau dans un spectacle, c'est on a vécu quelque chose pendant 2 heures, 3 heures ensemble et on peut en parler. Et au départ, ils ont très peur du jugement du professeur et ils me disent, j'ai pas aimé, mais je vais pas vous le dire parce qu'il faut que je vous dise que j'ai aimé. Je dis, mais non, tu as le droit de me dire que tu as détesté. Tout le monde a un point de vue sur un. Et une autre part de mon travail, c'est aussi de leur dire, ben voilà, pour une représentation théâtrale, eh bien, si je vais voir, par exemple, là, on va voir l'échange de Claudel la semaine prochaine, eh bien, je pourrais revoir cette pièce dans une autre mise en scène, de leur faire comprendre qu'on peut voir plusieurs fois, mais qu'il y a une mise en scène différente, parce que ça, ils ne le perçoivent pas, en tout cas. En tout cas, c'est cet enthousiasme-là qui est intéressant, mais quels que soient les publics, là, je parle des lycéens, mais l'accompagnement pour vivre un moment de partage et voir qu'effectivement, on travaille, mais enfin, les gens travaillent devant soi et qu'il n'y a pas un écran interposé.
Et à la suite de ça, est-ce que tu as eu des jeunes qui t'ont dit, tiens, ça y est, je viens de voir ça, j'ai vraiment envie d'en faire. Est-ce que c'est arrivé déjà?
Les jeunes sont très influencés par donc les réseaux sociaux et cette alors on va dire culture des fameux youtubeurs, c'est-à-dire ces personnes qui sont parfois de grands talents, hein, qui se mettent en scène dans des vidéos qui alors soit sont comiques, soit sont sur des sujets très pointus, etc. Et ils ont plutôt l'idée que un métier à faire, c'est ça, youtubeur, c'est un métier pour eux. Donc il faut arriver à leur faire comprendre que derrière ces youtubeurs qui réussissent pour certains, vraiment, il y a beaucoup de travail. C'est-à-dire que c'est pas seulement je me mets devant la caméra, je m'enregistre et puis je mets la vidéo sur Internet. Donc ils ont ce goût quand même de la mise en scène. En fait, par YouTube justement. Et il y en a il y en a peu quand même qui ont envie de se lancer dans le métier de comédien parce que, bon, bah, surtout à l'âge de l'adolescence, on a peur, hein, du jugement de l'autre. Donc, c'est pas évident. Mais ça leur donne envie, en général, quand ils y sont allés au théâtre ou même écouter un concert, ils ont envie d'y retourner. Ça, c'est gagné déjà d'une certaine façon. C'est ça qu'on veut. qu'on fait ce métier pour ça. Hein. C'est pour vraiment leur donner l'envie d'y retourner et justement de ne pas sacraliser cet endroit comme si c'était pour d'autres personnes que c'est pour tout le monde. C'est ce qu'on essaye de leur dire.
Bah, on va revenir un petit peu par ce biais peut-être à ta conférence. Et justement, est-ce que tu as présenté Frida Kahlo à tes élèves? Est-ce que tu as eu l'occasion de, non pas de développer la conférence telle que tu l'as faite hier, mais est-ce que c'est un sujet que tu as évoqué et comment l'ont-ils perçu?
Alors j'aborde Frida Kahlo, en fait, comme beaucoup d'enseignants, quand on en parle, c'est souvent autour de l'autoportrait, en fait. Moi je suis prof de lettres, alors du coup on peut faire des extraits évidemment d'œuvres autobiographiques et évidemment l'autoportrait dans l'histoire de l'art est un complément, donc je l'aborde pour illustrer en fait le thème de l'autobiographie, puisque Frida Kahlo c'est essentiellement sa vie qu'elle a mis dans ses tableaux, ses souffrances qu'elle a mis dans ses tableaux, ou l'image qu'elle voulait donner d'elle-même à travers ses autoportraits. Donc certains tableaux, comme j'ai pu montrer hier, peuvent choquer, hein, donc, puisque tous les tableaux concernant la maternité, etc., sont, ou la souffrance simplement, quand elle se représente en grand cerf, le cerf qui est blessé de toutes parts, c'est un peu choquant, mais en général, c'est compréhensible d'emblée, Frida Kahlo, c'est l'avantage, on a donc ça passe bien, en fait.
Et ça fait parler de quoi? Parce que nous, enfin, hier, on a effectivement différentes réflexions qui sont venues. Est-ce que ça les, par exemple, les jeunes filles voyant une représentation de la femme qui est quand même très très différente de ce qu'ils peuvent voir classiquement, c'est quand même un corps en souffrance, alors que les corps qu'on voit en règle générale et d'ailleurs les jeunes se mettent de plus en plus en scène corporellement. Quelle perception elles ont de ce corps très différent de celui qu'on peut voir et surtout de ce que ça sous-entend comme type d'engagement.
Jeunes filles comme jeunes hommes sont évidemment heurtés hein, par le sang. Tout simplement le sang. On va dire que nous aussi, en tant qu'adultes, hein, ces peintures nous heurtent, mais ça reste un tabou, surtout pour certains publics. Hein, alors, adolescents en général, et pour certaines, on va dire filles issues de l'immigration, où on ne parle pas du tout du sang, des règles, etc. C'est très choquant, ces tableaux. Et pour les garçons, évidemment, aussi. Parce que montrer un accouchement, montrer un fœtus, ça reste pour certaines un tabou. C'est intéressant d'en parler en fait, parce que moi je suis pas spécialiste, mais j'essaye justement de les faire parler des tabous et de leur dire que justement j'essaye de leur montrer que c'est pas tabou, qu'on doit pouvoir parler de quelque chose qui est justement, c'était la vision de Frida hein, Kahlo, c'était que ça fait partie du féminin. Ce n'est pas tabou. C'est effectivement certaines religions qui vont mettre des tabous derrière le sang menstruel ou derrière l'accouchement qui doit rester une zone privée, mais on peut en discuter justement. Est-ce que c'est vraiment privé? Qu'est-ce qu'elle a voulu montrer à travers justement démontrer sur la condition des femmes, sur la souffrance des femmes, sur ce qu'on occulte de la vie des femmes et qui pourtant est au centre de l'univers? Parce que l'accouchement, c'est évidemment la naissance de l'univers.
Est-ce qu'il y a l'admiration, justement, puisque replacé dans le contexte historique, c'est quelqu'un qui est quand même très loin, très loin, en tous les cas, au Mexique en l'occurrence, très loin des représentations qu'on pouvait certainement donner de la femme. Est-ce qu'ils sont sensibles à cette démarche qui est la démarche artistique en règle générale, c'est celle d'une forme de marginalité, d'une forme de développement d'un univers propre. Et est-ce que ça leur parle? Puisque aujourd'hui aussi, on est dans cette revendication de je suis moi et j'ai quelque chose à dire à titre personnel. Est-ce qu'ils sont déjà conscients de que l'art c'est aussi l'affirmation de quelque chose qui appartient en propre.
Ils comprennent que l'art est une forme d'expression, évidemment, de soi. Ça, c'est évident. Après, pour arriver à comprendre la diversité culturelle, l'origine culturelle, il faut avoir des connaissances politiques, tout ça, qui n'ont pas forcément. Le Mexique reste quelque chose de très lointain, vraiment. En revanche, donc, dès qu'on leur parle, effectivement, par exemple, du goût qu'ils ont actuellement des selfies, de l'auto-représentation permanente, de l'image permanente qu'on donne sur les réseaux de soi, là, ça leur parle, effectivement, et il voit effectivement la mise en scène d'une certaine façon que Frida Kahlo fait d'elle-même. Donc on peut discuter justement de l'image de soi. C'est un thème évidemment qui les intéresse beaucoup. Et ça permet, oui, voilà, de la libération de la parole sur l'expression de soi, l'apparence physique. Les codes vestimentaires qui sont différents, comment on revendique ce que fait Frida Kahlo, sa mexicanité, donc par les vêtements, par les coiffures, pour quelles raisons elle l'a fait. Donc ça, c'est le rôle de l'enseignant d'expliquer justement l'affirmation politique qu'il y a derrière, révolutionnaire, et non pas seulement du coup esthétique ou populaire comme ils le font aujourd'hui, hein. Un selfie, c'est pour le divertissement permanent, l'image de soi qu'on veut donner toujours positive, alors que Frida Kahlo n'était pas dans cette démarche, évidemment.
Juste une question que j'ai pas posée hier, mais que je te pose maintenant. Ce qui a été évoqué hier, c'est le côté très, très contemporain de son œuvre, à travers ce que tu viens de dire. Et dans l'univers de la littérature ou de la peinture, est-ce qu'il y a des gens qui se revendiquent de Frida Kahlo aujourd'hui ?
Dans la peinture, la peinture ou l'art en général, je pense que toutes les personnes, notamment Sophie Kahl, qui parle d'elle-même à travers ses improvisations artistiques. Improvisation, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, c'est sa démarche artistique, c'est proche. Après, je ne sais pas si exactement Frida Kahlo est la seule à l'avoir inspirée, mais oui, cette façon de se mettre en scène, on pourrait en faire un lien avec Sophie Kahl, par exemple, donc entre Frida Kahlo et Sophie Kahl. Après, en littérature, en fait, je pense que la démarche autobiographique, parce que ce qui est intéressant chez Frida Kahlo, c'est bien sûr cette dimension artistique, esthétique par le tableau, mais elle a une œuvre, donc elle a un journal qu'elle a publié, en fait, hein, donc elle n'est pas la seule à évidemment avoir cette démarche d'écriture. Donc là, il y aurait plein de gens qu'on pourrait citer, donc des journaux, mais c'est vrai que son œuvre m'a fait penser en fait à Charlotte Salomon, qui avait été popularisé par le livre de David Fonkinos, mais l'œuvre de Charlotte Salomon qu'on a redécouvert, du coup, cette donc artiste qui était donc pendant la Deuxième Guerre mondiale et avant la Deuxième Guerre mondiale, qui a grandi à Berlin, qui a fait une œuvre effectivement très intéressante, puisqu'elle a montré, elle a peint, et en même temps qu'elle peignait, donc c'était un journal intime sur ses tableaux, c'était écrit son histoire. Et ça, Frida Kahlo, elle a cette double aussi appartenance. Il y a beaucoup, bien sûr, de tableaux, mais il y a toujours aussi derrière la littérature, en fait. Enfin, en tout cas, une certaine forme d'expression de soi, du journal intime. Donc oui, je pense qu'il y a des écrivains qui peuvent s'y reconnaître, en tout cas l'autobiographie aussi.
Très bien, je pense qu'on va pouvoir conclure sur ces mots qui, je pense, vous donneront le désir d'aller plus loin, donc en écoutant la conférence de Laurence Croton. Eh bien, Laurence, je vais te remercier de nous avoir donné cette conférence et cette interview, et puis on aura certainement l'occasion de se revoir pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous et à très bientôt.
L'interview du jour.